Merci, merci, Laurent Gallois. Merci, Daniel Cohn, aussi pour la patience, parce que j'étais toujours assez en retard dans les deadlines de ce numéro. Donc, voilà. Mais bon, je partage aussi cette idée qui était introduite dans la note d'introduction au numéro, de l'esthétique au cœur de la philosophie. Et en particulier, on pourrait ajouter à ce que disait Jacques-Olivier tout à l'heure, le fait que sans une théorie de la connaissance et sans une métaphysique, l'esthétique n'a pas trop de sens. C'est-à-dire, quelque part, faire de l'esthétique implique des choix qui sont aussi des choix gnosiologiques, métaphysiques et épistémologiques. Et peut-être, cette préoccupation, nous la partageons tous. C'est-à-dire l'idée qu'en faisant de l'esthétique, nous faisons de la connaissance. C'est-à-dire, on est au cœur d'une question gnosiologique. Nous pouvons bien sûr regarder les objets artistiques comme des objets de connaissance. Et c'est ça qui nous distingue au fond de la critique d'art, de l'histoire de l'art. C'est cette question-là qui nous intéresse. Les modalités de la pensée sensible sont au cœur de notre questionnement. J'insiste sur cette expression introduite tout à l'heure par Daniel Cohn, des pensées sensibles. Parce que, quelque part, peut-être aujourd'hui, la formule de Baumgarten, de l'esthétique comme théorie de la connaissance sensible, ne suffit plus. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si aujourd'hui on pense l'esthétique comme une science de la connaissance sensible, on pourrait la réduire, au fond, à une philosophie de la perception. C'est ce que Baumgarten ne pouvait pas savoir, d'ailleurs. Et donc, peut-être insister sur la pensée sensible signifie aussi insister sur le fait que l'esthétique, la place de l'esthétique, est dans cette polarité entre nature et culture, entre sensation et pensée symbolique, entre sujet et objet. C'est-à-dire, à chaque fois que nous tentons une réduction de l'esthétique à un de ses pôles, nous nous trompons. Forcément. C'est-à-dire, là, je pense à toute tentative de naturalisation de l'esthétique d'un côté, d'anthropologisation de l'esthétique de l'autre. À chaque fois, nous perdons quelque chose d'essentiel de l'esthétique, c'est-à-dire garder une pensée de la polarité entre ces deux formes de symbolisation, d'humanisation du monde, finalement. Dans cette préoccupation collective, disons comme ça, j'avais une préoccupation ponctuelle qui est toujours, d'ailleurs, pas seulement l'effet esthétique, mais comprendre un peu en sorte de, comment dirais-je, de degré zéro de l'expérience esthétique. C'est-à-dire avant de les caractériser comme discipline, avant de la polariser aussi avec l'artistique, qu'est-ce que un niveau assez minimal est esthétique pour nous. Et bien sûr, j'aurais pu répondre, ce que je voudrais faire un jour, à cette question, en analysant la construction, comment dirais-je, du monde biologique, une construction protoculturelle. Et d'ailleurs, ma première proposition, Daniel, n'était pas l'effet esthétique, était quelque chose comme, je ne sais plus, mais la position esthétique de l'homme dans le monde, avec une référence implicite à l'anthropologie philosophique du XXe siècle, et en particulier à des anthropologues biologistes comme Plesner ou Buitendeck. Bon, rien à voir, j'ai fait toute autre chose, mais mon problème est le même, au fond. C'est-à-dire voir comment caractériser de manière minimale ce que nous appelons un fait esthétique. J'ai exploré l'autre côté, donc pas les proto-culturels, mais les proto-pensées. Et je suis intéressé surtout à ces passages, c'est-à-dire entre les contenus, la nature non conceptuelle et non propositionnelle. Bon, je ne rentre pas dans les détails de la perception, et les rôles que ces contenus perceptifs non conceptuels ont pour l'effet esthétique. Et mon hypothèse tient très peu de mots, finalement, c'était l'idée qu'à la base de notre expérience esthétique, il y a quelque chose qui échappe à notre possibilité conceptuelle, et par qui est reconnu peut-être par notre attention émotionnelle. Et là, il y a, à mon avis, un fil rouge important avec l'Einfühlung. Qui mobilise, donc pour lesquels, ces contenus non conceptuels mobilisent des contenus culturels, des catégories esthétiques, des adjectifs qui sont caractérisés culturellement et historiquement. Et cette dimension historique est nécessaire aussi dans notre expérience esthétique. On ne peut pas tout simplement la réduire au phénomène sensible. Donc il y a d'une part, pour moi, les fanères, c'est-à-dire quelque chose qui précède encore plus le phénomène, il est quelque part le moment même de l'apparition dans le monde de la vie, de quelque chose qui n'a pas d'utilité, mais qui est finalisé à plaire, à être regardé, à attirer notre regard. Et une dimension historique qui s'est construite à partir justement de cette apparition très, très simple, très élémentaire. Voilà pourquoi cette dimension perceptive pour moi était importante. Bon, encore je n'ai pas trouvé vraiment de bonnes réponses, mais ça c'est l'hypothèse. Voilà, merci.